sensibiliser, informer. Bienvenue à l'Académie. Le podcast que vous écoutez a été réalisé par le Mouvement des entreprises de France et réalisé à partir d'une session de sensibilisation. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle session de sensibilisation portée par l'Académie du MEDEF. Pour rappel, l'Académie, c'est l'organisme de formation intégré au MEDEF qui a pour vocation à participer à la transmission des informations stratégiques à destination du réseau du MEDEF, donc les MEDEF territoriaux, régionaux et fédérations professionnelles, mais également directement aux entreprises, soit qui adhèrent au mouvement, soit l'ensemble des entreprises sur certains sujets qu'on a décidé d'ouvrir au grand public, comme celui d'aujourd'hui, qui est porté par Inès Fontelas, qui est à mes côtés.
Bonjour.
Et qui est chargée de mission égalité, diversité et inclusion au sein du MEDEF. Merci Inès d'avoir pris le temps d'organiser ce webinaire. On sans plus attendre, Inès, je te laisse la parole.
Super, merci Gauthier. Je vais aller rapidement en introduction de ce webinaire, juste pour vous préciser les actions du MEDEF sur le sujet de l'inclusion des personnes LGBT+. Donc en interne, ces sujets sont traités au sein de la commission Entreprise dans la société et inclusion, qui a été créée par Patrick Martin et qui est co-présidée par Gilbert Maud-Desroches chez Schneider Electric et Muriel Liénot chez Nestlé. Et au sein de cette commission, on a deux comités, dont un qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, dont je suis la Sherpa, qui s'appelle Égalité et diversité en entreprise, donc qui traite des questions d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations au sens large. Le premier livrable que le MEDEF a publié en accès libre sur le sujet des personnes LGBT+, c'était en 2014. C'est un guide qui s'appelle « Identité de genre et orientation sexuelle » qui est toujours disponible sur le site du MEDEF. Si vous tapez « Ressources égalité des chances », vous trouvez tous nos guides. D'ailleurs, je vais peut-être l'ajouter le lien dans les slides après. C'est un peu daté, ça a 10 ans. Cette année, on va mettre à jour nos informations sur ce sujet, notamment via la publication d'un livre blanc sur l'inclusion, qui sera le premier livrable de la commission Entreprise dans la société et inclusion, et qui inclura des fiches pratiques, fiches de décryptage, des outils existants qui peuvent être utiles aux chefs d'entreprise et aux dirigeants lorsqu'ils souhaitent, ils et elles souhaitent s'engager sur les sujets d'inclusion. Et donc, une des fiches pratiques portera sur la question des personnes LGBT+, et sera publiée au S4, en dernière partie d'année 2024. Je fais du coup une bonne transition puisque ce guide livre blanc sera publié à l'occasion de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive, qui est un événement de sensibilisation qu'on organise depuis 5 ans avec l'Association française des managers de la diversité. Et donc l'année dernière, on a organisé en partenariat avec l'autre cercle et avec Catherine Tripon, ici présente, un webinaire sur les rôles modèles LGBT+, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en replay. C'était un des premiers événements au MEDEF sur ce sujet. Et donc, on réorganise la semaine de l'entreprise responsable et inclusive cette année. Elle aura lieu du 14 au 18 octobre. Donc, l'objectif de la série, je vous fais rapidement la petite description, c'est donc de sensibiliser aux enjeux de la RSE diversité et inclusion, de s'informer sur les outils qui existent et les bonnes pratiques d'employeurs, d'associations et de pouvoirs publics, de rencontrer les acteurs et actrices qui œuvrent sur le terrain et qui sont spécialistes de ces sujets, et puis d'échanger des idées et des points de vue entre professionnels. L'année dernière, en 2023, on a eu 6500 personnes connectées à l'ensemble des événements de la semaine, 231 partenaires mobilisés, 110 rencontres organisées dans la semaine, notamment sur les territoires avec des formats très différents, comme vous voyez, table ronde, escape game, fresque, débat, atelier. On a eu un forum des associations qui aura lieu aussi cette année, qui a réuni 13 associations partenaires du MEDEF. Et puis, vous pouvez retrouver sur le site de la série, que vous retrouverez dans les slides, tous les replays, notamment de nos conférences, de notre conférence sur les alliés LGBT, mais aussi sur plein d'autres sujets et les ressources de nos partenaires. Donc cette année, ce sera du 14 au 18 octobre. On a un thème central qui est la RSE, la diversité et l'inclusion comme levier de transformation des organisations. Et ce thème sera décliné en 4 journées, en dehors du lundi qui est la journée d'ouverture institutionnelle qui a lieu au MEDEF et en ligne. Les 4 autres jours, donc du mardi au vendredi, se déclineront avec un thème par jour, à savoir piloter, mobiliser, communiquer et innover. Donc le lundi 14 octobre, journée d'ouverture au MEDEF en ligne. Ensuite, chaque journée thématique. Les inscriptions pour la journée d'ouverture sont déjà accessibles sur le site de la série. Et on va publier le programme des événements de la semaine mi-juillet, sachant qu'il y aura les événements au programme de la série, plus un bon nombre d'acteurs qui vont proposer des événements dans le cadre de cette semaine sur les sujets de diversité, inclusion et de RSE, que vous pourrez aussi retrouver sur notre site internet jusqu'en octobre. On mettra à jour régulièrement. Donc, quatre manières de prendre part à la série. Participer à titre individuel. Tous les événements sont gratuits et ouverts à toutes et tous. On essaye au plus possible, notamment les événements du programme, qu'ils soient soit full distanciel, soit en hybride, pour que tout le monde puisse y accéder. Mobilisez vos parties prenantes, vos salariés, vos réseaux, puisque tous les événements sont des contenus de sensibilisation et d'information gratuits et accessibles. Parlez-en autour de vous, puisqu'on a un super hashtag série 2024. Et puis, mettez en avant vos pratiques RSE et D&I. Alors, en devenant partenaire, donc soit en organisant un événement au programme, soit en organisant un événement qui s'inscrit dans la semaine ou une campagne de communication, la prochaine réunion d'information pour avoir des informations sur comment se mobiliser pendant la série aura lieu le 2 juillet à 14h et j'ai mis le lien d'inscription dans les slides. J'ai été un peu vite, mais je suis à votre disposition. Je vais rajouter aussi mon contact dans les slides si vous souhaitez prendre part à cette mobilisation annuelle.
J'en profite pour préciser que cette présentation vous sera envoyée, donc vous aurez toutes les informations à disposition.
Sans plus tarder, Catherine, tu vas nous présenter les résultats 2024 du baromètre LGBT+ que vous publiez avec l'IFOP. Et donc, je te passe la parole.
Très bien. Merci beaucoup, Inès. Merci. Écoutez, bonjour toutes et à tous. Je suis ravie de retrouver une nouvelle fois le MEDEF que je suis depuis très longtemps et qui, contrairement des images extérieures, est tout à fait en phase sur les évolutions sociétales, au rythme de ses adhérentes et adhérents. Mais néanmoins, nos sujets LGBT+ sont quand même traités depuis pas mal d'années maintenant. Alors, juste rapidement, je ne vais pas redire ce qui est dit sur la slide. En revanche, je vais préciser que c'est la quatrième édition du baromètre IFOP Entre Cercles qu'on administre tous les deux ans, avec l'idée qui était d'interroger de manière totalement anonymisée, bien sûr, des signataires à travers effectivement leurs employés, les salariés, évidemment LGBT et hétéro, bien sûr, puisque on n'est pas censé, jusqu'à preuve du contraire en France, à mesurer directement ces populations-là. Et en parallèle, on avait demandé à l'IFOP, alors sur la base de volontariat, bien sûr, parmi les signataires de la charte d'engagement LGBT+, et en parallèle, on demandait à l'IFOP un panel représentatif de la société française pour voir si, effectivement, le fait de travailler dans une entreprise, alors je dans cette organisation, parce que ce panel touche aussi bien des salariés ou des agents-agentes de la fonction publique que des gens du privé. Mais là, parlons ici entreprise au MEDEF, et donc un panel représentatif de personnes travaillant effectivement aujourd'hui. C'est un panel robuste, hein, parce que c'est pas loin de 50 000 personnes qui ont répondu. 43 252 parmi les employés des 83 signataires de la charte qui ont contribué, hein, sur les 280 qui ont contribué effectivement à cette enquête, et presque 9 000 du côté du panel IFOP. Il y a des points positifs, des points négatifs. Sur la slide suivante, il y a un point effectivement qui est un vrai point d'amélioration, et là on a pris 10 points depuis la quatrième édition, depuis 6 ans, c'est qu'on a aujourd'hui 6 employés sur 10 qui sont visibles. Alors quand on dit visible, ça ne veut pas dire forcément visible de tout le monde, mais en tout cas qui le sont de quelques collègues, qui se sentent assez à l'aise, assez en confiance pour pouvoir être visibles. Je fais une petite incidence sur le fait que mais ça veut dire quoi être visible, puisqu'à propos du contraire, un, il n'y a pas d'injonction à la visibilité, et deux, comme chacun sait, ça relève de la vie privée, il n'y a donc aucune obligation d'en parler, mais comme on parle de la vie privée au travail par ailleurs, que ce soit à la machine à café, que ce soit pour activer des droits liés au mariage, liés au fait d'avoir une ancienne parentalité, ou pour pouvoir activer s'il y a un comportement inapproprié, et de pouvoir réagir, soit en contactant le N+1, un référent discrimination et autres. Donc cette question de visibilité n'est pas neutre. En revanche, on en a moins de la moitié qui sont visibles auprès de leur N+1. Ce qui est un sujet, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas assez confiance pour que la personne qui les dirige et qui est en situation de pouvoir permettre leur évolution professionnelle, leur accorder des bonnes missions, accorder une prime, etc., se disent qu'ils prennent un risque s'ils sont visibles, et donc ils veulent effectivement écarter ce risque-là. Donc c'est un point pour nous qui reste encore un peu préoccupant. Alors sur la slide suivante, on a un peu plus d'éléments. En revanche, on voit une évolution, et on faisait un peu un focus sur la question de la transidentité et de la non-binarité, qui sont des sujets du moment, qui sont des sujets prégnants pour les nouvelles générations, qui arrivent dans la vie professionnelle en étant soit dans une phase de transition, soit dans une logique non-binaire, c'est-à-dire des personnes qui ne veulent pas être identifiées d'un genre masculin, d'un genre féminin. Ça, c'est un constat. Voilà. Bien parlons de mode, pardon, d'opportunité, peu importe. La réalité, c'est que les jeunes aujourd'hui n'ont pas envie qu'on les mette dans des cases, et surtout par rapport à leurs aînés, qui souvent ont mis un masque, ils et elles n'ont pas envie de mettre ce masque. Et là, quand on regarde ce graphique, on voit qu'on a encore à peu près 6% de personnes qui sont mal à l'aise face à un coming out d'un collègue ou d'une collègue gay, lesbienne ou bisexuelle. C'est peu, 6% c'est toujours effectivement trop, mais c'est peu. En revanche, on monte à 21% pour une personne qui fait ça, son coming out et qui démarre sa transition, ou 16% pour une personne qui est non-binaire. Donc on voit ce sujet-là, il est quand même beaucoup plus sensible. Si on continue effectivement maintenant dans la slide suivante, la question du climat au travail, là c'est malheureusement quand même une constante. Alors une petite baisse depuis l'enquête de 2021, mais on a quand même un employé sur quatre qui dit avoir subi une discrimination de la part de sa direction. Alors comme toujours, dès qu'on parle de discrimination, réelle, pas réelle, ressentie, exagérée, pas justifiée, on peut après gloser longtemps là-dessus, mais comme ce sondage, un peu comme les baromètres internes qui peuvent exister, ou toute une forme effectivement de survey, c'est un ressenti du moment et qui peut s'appuyer effectivement sur des éléments tangibles. Et là, on a quand même effectivement 20% qui ont ressenti des inégalités dans le déroulement de leur carrière. Et là, ça reste constant par rapport à 2021. On a une inégalité dans les rémunérations, ça a un petit peu baissé. On a pour 16%. Pour 18%, c'est l'inégalité dans les missions confiées. Et c'est vrai que c'est un enjeu. Une mission, effectivement, qui serait peut-être plus rémunératrice, on va peut-être l'accorder à quelqu'un qui est un peu le chouchou de la maison, ou en tout cas avec qui on sort plus en harmonie, ou la mission la plus difficile, la plus casse-gueule, ou qui n'aura pas le même résultat en matière de primes et autres, peut-être qu'on la confiera justement à quelqu'un avec qui on ne se sent pas en harmonie. Alors, on parle de la question LGBT+, évidemment, ça peut concerner tout à fait d'autres critères. Et puis, l'égalité de traitement dans le recrutement, qui, même si il y a des vrais processus, hein, je rappelle la loi qui oblige à avoir une formation des personnes en charge de recrutement pour des entreprises de plus de 250 salariés. Alors, si vous passez bien sûr par un organisme public comme France Travail, l'APEC, il y a des rigueurs, les personnes sont formées, des grands intermédiaires de l'emploi. On n'est jamais à l'abri, hein, évidemment, d'un loupé, mais qui sont très engagés aussi pour être très rigoureux, pour objectiver les raisons qui fait qu'on va choisir tel ou tel profil de personne. Après, dans les recrutements privés, il y a une part de variable qui peut rentrer effectivement en ligne de compte. Alors tout ça, oui, évidemment, je vais le compléter avec un autre résultat qui n'est pas, qui montre encore un focus un peu fort sur les personnes transidentitaires, c'est que sur ces fameuses discriminations, là, vous avez les couleurs, donc en bleu canard. Bleu des mers du Sud, c'est 24, ça représente les lesbiennes. Le bleu roi, ça représente les gays. Le rouge représente les bisexuels. Et le vert, un peu moutarde, représente les personnes non binaires et trans. Et là, on voit bien que les discriminations, on est entre 21 et 24% pour les personnes LGB. On monte à 42% pour les personnes transidentitaires. Il y a aussi la question de la profession qui rentre en ligne de compte, puisque c'est 31% effectivement de statut d'ouvrier ou d'ouvrière qui subissent des discriminations pour 25% de cadres. Alors, par plein de raisons sociologiques et autres, voilà, le fait d'être dans l'encadrement, c'est pas que ça préserve forcément, mais vous donne des capacités peut-être à réagir, à intervenir, alors que quand on est employé, ouvrier, bah, le fait finalement d'aller voir la direction, on n'a pas forcément l'aise, on n'a pas forcément les mots, on ne mesure pas forcément bien effectivement ce qu'on a subi, et donc on ne dit rien. Voilà, je ferme ce petit focus et on continue effectivement toujours sur le climat au travail. Et là, dans le quatrième enseignement, c'est le niveau d'agression LGBTphobe qui persiste et qui est préoccupant, puisqu'on a 3 personnes sur 10 qui disent avoir été victimes d'au moins une agression sur le lieu de travail. Là, du coup, c'est constant par rapport à l'édition de 2021. On a perdu 2 points, mais c'est quand même relativement à la marge. Donc, on a un petit peu de baisse, mais c'est toujours les moqueries désobligeantes ou les propos vexants. Moi, je dis souvent dans mes interventions, ok, c'est pas parce qu'on traite de PD, Travelot et Gouine ou Houdou. Bon, ok, c'est pas non plus de la gibophobie lourde, enfin, c'est quand même rarement un compliment. Et c'est plutôt quelque chose de dénigrant. Donc, ça ne donne pas envie. Alors, si on entend des collègues qui définissent quelqu'un d'extérieur ou quelqu'un qui va arriver dans le service ou un client, un fournisseur, on le traite de cette manière, si vous n'êtes pas visible, vous n'allez certainement pas vous rendre visible. Ensuite, après, évidemment, les insultes ou les injures à caractère discriminatoire. Il y en a beaucoup. Oserais-je dire que depuis quelques semaines, il y a même un accroissement. Et puis, bien sûr, la mise à l'écart des autres employés. C'est-à-dire que vous êtes différent du groupe, du collectif de travail. Ici, ce collectif n'a pas été sensibilisé au fait d'accepter les collègues dans leur singularité. On parle LGBT+, mais on peut parler effectivement d'autres critères. Eh bien, si vous vous sentez différent du corps majoritaire, vous pouvez effectivement être mis à l'écart avec tout ce que ça implique sur l'impact psychologique pour la personne. Il y a aussi un sujet beaucoup plus tordu qui est la menace de révéler effectivement l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Et pour ne pas le révéler, effectivement, c'est une forme de chantage. Ça veut dire, tu ne dis rien, je peux m'autoriser à continuer à mal te traiter ou demander des faveurs ou faire travailler plus la personne ou la faire travailler sans lui payer ses heures sup. Il y a plein de raisons, de moyens objectifs pour activer ça. Les menaces d'agression hein, sur vos biens ou vos personnes, ça existe aussi. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quand même 12%. Donc, ce qui est quand même un peu significatif. 12%, bien sûr, des 3 employés sur 10 qui ont déclaré avoir subi une agression. Et puis, des actes de violence physique. Alors, ça, il y en a moins. Mais il peut encore y en avoir, effectivement. Ça peut toucher aussi beaucoup les femmes parce que les lesbiennes sont beaucoup moins visibles que les gays. Parce que la question du sexisme rentre évidemment en ligne de compte et avec toutes les violences que les femmes peuvent parfois subir, mais vous le savez bien. Donc, sur ces mauvais résultats ou ces chiffres qui ne sont pas très très agréables, on va quand même passer à la slide suivante, en se disant que l'enseignement 5, malgré tout, quand on a une démarche inclusive. Alors, je ne dis pas que forcément être comme certaines organisations, peut-être d'influence anglo-saxonne, qui peut avoir un char à la marche des fiertés samedi prochain, quand on va aller manifester, je n'ai pas d'aller jusque-là. La question, effectivement, d'avoir un engagement, c'est un engagement de la direction. Clairement, du zéro tolérance sur les comportements inappropriés. Évidemment, sur tous les critères que comporte la loi, et bien sûr sur ceux qui nous importent aujourd'hui. Et quand nous avons co-construit la charte à l'époque avec Accenture, il y a 12 ans maintenant, et 8 de leurs gros clients, qui disaient, on n'arrive pas à mettre le sujet sur la table, une espèce de plafond de verre, ça relève de la vie privée, on n'en parle pas, et pourtant, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon quotidien avec mes collègues, activer mes droits pour mon mariage ou parce que j'ai un enfant qui arrive dans mon foyer, pouvoir réagir si j'ai un comportement inapproprié, ça implique à un moment donné forcément de faire son coming out et de parler de sa vie privée. Donc, on constate que la colonne de gauche, alors ce qui est écrit en bleu, ça paraît en rouge, tiens, ça a changé de couleur. Alors, bon, ce qui est en bleu roi, ce sont les réponses du panel de l'IFOP, des Françaises et des Français qui travaillent. Et ce qui est en jaune, enfin, ça paraît en jaune à l'écran, vert en moutarde, c'est la réponse des employés LGBT+, parmi les 83 organisations qui ont participé effectivement à ce baromètre. Donc, on voit une différence sur l'inégalité des roulements de carrière, on est de 20 panel France à 15 panel Charte. Inégalité de rémunération, on est à 16 contre 12. Inégalité dans les missions confiées, on est de 18 à 11, quand même un petit delta qui est pas neutre. Et sur le traitement dans le recrutement, de 15 à 10, qui est aussi voilà, une constance. Sur les victimes, phénomène d'agression. Injures, caractère diffamatoire, pardon, on est entre 16 et 16 pour 9% seulement chez les signataires de la charte. Les mises à l'écart, on passe de 15 à 8. On voit comme des deltas qui sont plus importants. Les menaces de révéler l'orientation sexuelle, l'identité de genre, on est de 12 à 4. Et les agressions sur les biens et les personnes, de 12 à 3. Et les violences physiques, de 10 à 3. Donc, plus on est effectivement dans les degrés de violences, celles qui sont non tolérées, non tolérables et souvent non visibles. Parce que quand on agresse physiquement quelqu'un, quand on le menace, évidemment, il n'y a pas de témoin. Ça se passe dans la confidentialité, derrière la machine à café ou le photocopieur, ou le soir tard, derrière une porte de bureau, et les gens ne sont pas forcément témoins. Mais on voit bien quand même si on en encore, et que pour nous, c'est toujours un sujet, et surtout pour les signataires de la charte engagée, c'est forcément un sujet, on voit bien malgré tout que ça n'empêchera pas les personnes d'être LGBTphobes, mais quand il y a effectivement un engagement clair, ça veut dire on ne s'autorise pas à utiliser ses propres convictions à l'encontre effectivement de ces personnes, et ça réduit les comportements inappropriés. Voilà, pour terminer, si vous souhaitez, dans la dernière slide, sur le site de l'autre cercle, autrecercle.org, vous avez les 10 indicateurs clés qui sont vraiment les grands chiffres, c'est un peu ce que je vous ai donné. Et puis, il y a le replay de la conférence, de présentation de la conférence qui a eu lieu chez Alliance il n'y a pas très longtemps. Et vous avez le QR code pour récupérer les éléments. Merci.
Merci Catherine.
Merci Catherine. C'est vrai que avant de passer à Emmanuel, qui va nous parler de ce qui est mis en place chez PwC, on peut se poser la question pourquoi s'engager au sein de l'entreprise et pourquoi mettre en place des actions sur un sujet qui est un sujet qu'on pourrait dire à caractère privé. L'idée d'orientation ou de genre, pourquoi en parler en entreprise et pourquoi pas laisser ça chez soi, quoi.
Les raisons qui poussent les entreprises à en parler, ce n'est pas la peine de parler de RSE, de parler de diversité, d'inclusion, richesse pour l'entreprise et tous les termes qu'on entend qui sont très jolis et très bien écrits dans des plaquettes d'information, dans des intranets, extranets, ou une communication au moment de la rentrée pour inviter effectivement des jeunes diplômés à rejoindre l'entreprise. Ça sert à rien de parler de tout ça si effectivement on met des critères de côté ou peut-être que cela dérange un peu, sont un petit peu touchy ou qu'on ne sait pas très bien comment les traiter. Parce qu'effectivement, à l'inverse d'autres critères visibles, un, ils ne sont pas forcément visibles, on l'a bien dit, sauf pour les personnes effectivement qui font leur transition. Deux, il n'y a pas de négociation avec les partenaires sociaux, il n'y a pas de mesure possible, donc pas de pénalité financière, et voilà, rien de particulier. En revanche, il y a plusieurs raisons. Alors, gestion du capital humain, si mes équipes se sentent bien dans leur peau et s'il n'y a pas de comportement inapproprié, elles bosseront bien. Tout intérêt. Il y a ce qu'on appelle la rétention des talents, sinon les gens vont partir. Vous avez des gens, des jeunes gens qui vont aller dans votre entreprise parce que elle a un beau nom, une belle image, et ça va être super sur le parcours, sur le CV, ils resteront pas parce qu'ils sont pas à l'aise, ils iront choisir une entreprise dans laquelle effectivement il y a des personnes visibles, en tout cas qui sont tout à fait à l'aise et pas gênées là-dessus. C'est aussi donc là, évidemment, a fortiori, si je parle de rétention des talents, je parle effectivement d'attirer les talents. Donc c'est l'attractivité de la marque employeur qui rentre en ligne de compte. Puis de l'autre côté, c'est bien sûr la question effectivement en termes d'image. Aujourd'hui, vous savez, dès qu'il y a un dysfonctionnement, ça part sur les réseaux sociaux extrêmement rapidement. Donc en termes d'image, ça peut être assez gênant. Et puis vous avez aussi beaucoup d'entreprises qui sont des fournisseurs de grands groupes ou d'entreprises de taille moyenne qui sont très engagées sur les questions de diversité, d'égalité, d'inclusion, dont la thématique LGBT+, et qui regardent aussi parmi leurs fournisseurs, hein, dans une logique RSE, dans leur chaîne effectivement de valeur, dans leur écosystème, de travailler avec des partenaires ou des fournisseurs qui ont des marges volontaristes, en tout cas explicites, ou en tout cas pas d'opposition sur ces critères-là. Voilà, donc un côté la performance, deux l'image, trois avoir les meilleurs, quatre les garder, et cinq pouvoir attirer de nouveaux clients aussi, parce qu'on montre qu'on a une démarche volontariste.
Oui, c'est vrai que l'inclusion, c'est un critère d'attractivité aujourd'hui qui n'est pas négligeable. Mais est-ce que, Catherine, vous avez le moyen de voir si parmi les entreprises qui agissent, est-ce que c'est parce que c'est porté par des personnes qui sont concernées ou vous avez aussi un certain nombre de ce qu'on appelle les alliés? C'est-à-dire les personnes qui sont hétérosexuelles, mais qui apportent leur soutien aux LGBT. Est-ce que vous avez des données, nous en dire un peu plus là-dessus?
Alors, je vois finalement le message, si c'est bien Lalia Safraoui que je connais. Donc, je la salue si c'est bien elle, et je la salue même si ce n'est pas elle. Alors, évidemment, quand je vois dans ce panel à peu près 50 000 personnes, si on reprend effectivement le chiffre du début, sur les 43 250 personnes, vous en aviez 6 915 qui étaient LGBT+. Sur le panel de l'IFOP, qui était presque 8 000 personnes, vous en aviez 1 027 qui étaient LGBT+. Donc, on a quasiment les trois quarts des répondantes et répondants de ce baromètre qui sont non LGBT+ et qui sont considérés comme des alliés. Nous, c'est un grand sujet, on a sorti le premier guide de la collection carrément sur les alliés, pour une raison très simple. C'est que l'enquête Ipsos de 2023, ils ont fait une grande enquête dans 30 pays pour la France. Aujourd'hui, vous avez 10% de Françaises et de Français qui disent faire partie de la communauté LGBT+. A contrario, c'est-à-dire que 90% sont plutôt alliés. Enfin, en tout cas, ne le sont pas. On monte d'ailleurs, pour information, on monte à presque 22% pour les jeunes de 18 à 25 ans. Donc c'est pas qu'il n'y en a plus chez les jeunes, c'est juste qu'ils sont plus visibles parce que la société renvoie une image évidemment plus positive, même si à côté de ça, il y a une augmentation des agressions physiques, rapport de SS-homophobie, chiffre du ministère de l'Intérieur. Pour notre marche de samedi, et particulièrement une marche pas neutre, tenant compte aux agressions qui se multiplient en ce moment. Donc si je reviens dans le cadre du travail, c'est certainement le dernier endroit un peu safe et un peu tenu. Dans l'enquête, il y a juste, alors, il y a quelques points. Sur la question effectivement des propos tenus, 53% des personnes LGBT+ ont dit avoir entendu des propos déplacés. Et il y en a 4 sur 10 qui ont pas osé en parler. Généralement, on est sur des chiffres inférieurs de l'ordre de 30% des personnes alliées qui en ont entendu. C'est-à-dire qu'il y a des mots quotidiens, des choses qui sont un peu voilà, entrées dans le langage courant, sur lesquelles on ne réagit pas forcément quand on n'est pas directement concerné. Je ferais bien un parallèle avec les propos sexistes. Des blagues, ah, oh, c'est pas méchant, on peut plus rigoler, sauf qu'effectivement, la blague, elle est un peu sexiste et que la femme concernée le vit pas forcément très bien. Ce que l'on peut mesurer, c'est le climat, effectivement, de ressenti dans des baromètres de ressenti, de poser la question, ce fait, est-ce que pour vous, c'est un sujet, c'est pas un sujet? Quand on regarde le slide que je vous montrais tout à l'heure, d'avoir 6% de personnes mal à l'aise avec un coming out d'une personne lesbienne, gay ou bisexuelle, même si on monte à 21% pour une personne transidentitaire, ça veut dire que le reste du pourcentage, ils sont pas mal à l'aise avec ça. Donc ils ont attiré là-dessus. Juste un dernier petit chiffre que je trouve extrêmement intéressant, que vous nous a surpris, parce que dans ce baromètre, on a rajouté des questions sociétales. La question effectivement de la féminisation des titres, l'écriture égalitaire ou inclusive, et la question effectivement de GPA et des droits parentaux. Et là, on a quand même sur ce panel France, 9 Françaises et Français sur 10 qui disent trouver normal d'accorder les mêmes droits parentaux à leurs collègues qui ont fait une GPA. Vous savez que la PMA étant deux couples de même sexe, deux couples de lesbiennes, donc est en action depuis le décret d'application d'octobre 2021. Donc en théorie, une collaboratrice et lesbienne qui fait une PMA avec sa compagne peut effectivement demander les jours d'absence ou prendre le congé d'accueil de l'enfant si c'est pas elle qui est effectivement accouchée, etc. Mais du côté des garçons, c'est pas le cas. Donc ça veut dire que même si parmi les répondants, certains ne sont pas à l'aise avec la GPA qui interroge sur les questions d'éthique et autres, au moins quand ils ont leur collègue qui revient sur le travail, n'ont pas envie effectivement qu'ils soient traités différemment que les autres collègues hétéros. Parce que la GPA aussi, bah, majoritairement, ce sont pas des couples de garçons, vous avez des couples hétéros qui font une GPA parce que des contraintes médicales et autres. Donc on voit bien que la société fait bien le distinguo entre ce qui relève de perception, d'évolution et autres, et puis les questions de justice sociale, les questions de justice et d'égalité sur le lieu de travail. Et ça, c'est quand même très prégnant, et franchement, ce 9 sur 10 nous a vraiment surpris. Très agréablement, bien évidemment, et plutôt de bonne cure pour l'avenir.
Merci Catherine. Alors n'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat. On va passer la parole à Emmanuel Bardet qui est avec nous aujourd'hui, qui travaille du coup chez PwC comme Gauthier l'a mentionné. Et on se demandait, Emmanuel, donc vous êtes signataire de la charte, si je ne me trompe pas, et donc vous avez
Tout à fait.
participé à ce baromètre au sein de votre organisation. Et on voulait vous demander, est-ce que les résultats chez vous dans votre entreprise sont comparables? Vous avez du coup, publié deux éditions, participer à deux éditions de ce baromètre. Est-ce que vous avez vu des évolutions? Et puis ensuite, un peu, voilà, quels ont été les enjeux pour vous de vous engager sur ce sujet, chez PwC?
Oui, en effet, donc on a participé à ce baromètre et en fait les enseignements sont globalement les mêmes hein, que ce que Catherine, tu viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'il y a du positif, il y a des sujets de fierté et puis il y a encore du pain sur la planche. Voilà. Il y a un chiffre, nous, qu'on retient, parce que c'est un chiffre qui nous amène de la fierté, c'est le pourcentage des personnes interrogées qui considèrent leur organisation comme LGBT friendly. Ça peut cacher ou dire beaucoup de choses, mais néanmoins, c'est quand même déjà une première étape. Et on est à 98% au sein de PwC. On était à 96% il y a 2 ans, et pour les entreprises signataires de la charte, on est à 94%. Donc, on voit que globalement, et c'est quelque chose que tu as soulevé, Catherine, les entreprises, les collaboratrices et collaborateurs qui sont dans les entreprises signataires de la charte sont dans des environnements, on va dire, plus sûrs, plus safe que le reste de la population. Et nous, parmi les entreprises signataires de la charte, c'est vrai qu'on a tendance à pouvoir s'en sortir un petit peu mieux. Ceci dit, on s'en sort un petit peu mieux, mais il y a encore en effet des sujets sur lesquels on doit continuer à travailler. Et Catherine, tu as parlé c'est-à-dire la visibilité ou l'invisibilité des lesbiennes, de la place qu'on doit donner au sujet de transidentité, à la non-binarité. Là, c'est quelque chose où on voit que nos chiffres, en fait, ils sont pas très loin du panel et on voit qu'il y a encore des choses à adresser. Pareil sur les réponses des LGBT+, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les non-LGBT. Et en effet, on voit pas, je pense que notamment sur les discriminations, quand on est témoin ou quand on est victime de discrimination, on a des chiffres qui sont différents. Donc, on voit bien qu'on ne vit pas les choses de la même façon. Et puis, sur la part de ces LGBT+, qui refusent d'être visibles par crainte de moquerie, par crainte d'être discriminés à leur parcours professionnel, par crainte de jugement négatif, là aussi, il y en a encore beaucoup trop. Et je pense, c'est une forme de responsabilité, d'autant plus qu'on est un groupe on est un cabinet d'audit et de conseil, donc on a des gros volumes de recrutement chaque année, notamment auprès des plus juniors. Donc souvent, pour un stagiaire, un alternant, ou quelqu'un qui démarre sur le marché de l'emploi pour son premier job, en fait, on peut être le premier terrain de jeu pour l'organisation, pour l'entreprise et le monde du travail. Et Catherine, tu disais quelque chose, encore une fois, de super important, c'est que si ce jeune qui arrive chez nous, il entend des moqueries, il n'est pas à l'aise parce qu'il y a des mauvaises blagues qui sont plus que des mauvaises blagues parce qu'elles empêchent quelqu'un de pouvoir être soi-même à 100%, eh ben, en fait, c'est pas comme ça qu'on peut atteindre de la performance pour les entreprises. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais rebondir aussi parmi les différents Les objectifs que peut rechercher une organisation pour mettre en place des programmes pour œuvrer pour l'inclusion des LGBT+ au travail. Moi, t'en as cité plusieurs, Catherine, il y en a une vraiment que je revendique et que je revendique quelles que soient les audiences, et alors encore plus facilement auprès de vous, mais c'est la performance durable des entreprises. Non, un collaborateur, une collaboratrice ne peut pas être soi-même à 100%, ne peut pas être 100% engagé, 100% performant, si il ou elle n'est pas 100% voilà, soi-même au travail. Et ça commence par pouvoir parler facilement de copains, copines, de ce qu'on a fait le week-end et de tout ce qui fait, en fait, qui tisse le lien social au travail. Et on a tous parlé de l'importance de ce lien social suite au Covid, avec l'importance du télétravail, ce lien qui peut se perdre. Donc, on voit à quel point il est important. Il est encore plus peut-être pour des jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail, mais il est globalement pour tout le monde. Donc, on n'est pas sur des sujets qui relève juste de la sphère privée, qui relève juste de sens de l'histoire vers la RSE, l'engagement sociétal. On est aussi sur des sujets de performance et de permettre à tout le monde d'être soi-même. Et puis un autre écho aussi par rapport à l'univers. Nous, on recrute des bac plus 5. Donc voilà, 100% de cadre. Et un autre élément qui ressort du baromètre, c'est de montrer que oui, il y a une différence. En effet, il y a plus de discrimination chez les ouvriers, mais en fait, chez les cadres, on est quand même à 25%. Donc il ne faut pas croire. Je lutte contre l'idée reçue qui serait de dire, mais un monde de bac plus 5, c'est un monde qui est préservé de discrimination sur les LGBT+, tout comme ce serait un monde qui est préservé de violences domestiques. C'est faux. Il y a peut-être des secteurs d'activité, le tertiaire ou d'autres, qui sont un peu moins touchés, mais qui le sont quand même. Donc il ne faut pas se cacher derrière des faux arguments pour se dire, n'avançons pas parce qu'on n'est pas concerné. Ouais, Catherine, tu veux réagir?
Oui, je rebondis ce que tu disais avec un point. Je peux peut-être se souvenir effectivement de ce scandale en début 2023 d'un WhatsApp raciste à l'école centrale de Lille. Il y avait 30 élèves qui étaient membres sur WhatsApp sur une promotion de 300, 10%. C'est beaucoup. Puis WhatsApp raciste, pour qu'on en vienne à ce que soit un WhatsApp et considéré comme raciste, ça allait au-delà des simples mots déjà extrêmement déplacés et insultants qui sont répréhensibles aux yeux de la loi. C'est pour ça qu'on a décliné notre charte d'engagement LGBT+ pour l'enseignement supérieur, qu'on a lancé avec la ministre Sylvie Retailleau il y a 2 ans maintenant, qu'on est en train de développer avec le soutien du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, parce que, à la fois, c'est la fabrique de nos élites de demain, et que non seulement il faut que les personnes concernées, les étudiantes et étudiants, soient aussi bien traitées et puissent, dans le cadre d'une transition, ne pas être mal perçues par d'autres élèves, et vraiment faire ce travail de sensibilisation, mais également sensibiliser tous les autres, leurs camarades, qui sont prioritaires et qui sont en situation de professionnel et vont mieux comprendre, effectivement, vont mieux intégrer la gestion de personnalités qui ont des singularités, en l'occurrence, ce qui me concerne LGBT+. Et les jeunes aujourd'hui, franchement, les nouvelles générations, alors on parle de l'enseignement supérieur parce que c'est là où il y a plus de travail de fonds parallèles sur l'exigence sociétale, hein, dans la formation d'un bon manager. Il n'y a pas que l'expertise technique, commerciale et professionnelle. Mais de manière générale, les jeunes sont extrêmement attentifs. D'abord, ils ont des vraies affirmations identitaires, aussi bien dans leurs convictions écologiques, politiques et autres, mais sont très attentifs à rentrer dans des bottes qui sont claires sur le sujet. Bien sûr, pour les jeunes concernés, mais également pour leurs camarades hétéros, parce qu'ils ont des amis qui sont gays et lesbiennes et que pour eux, c'est un tout. Donc, il faut vraiment garder ça à l'esprit.
Je rebondis, ouais, quand on parlait des alliés tout à l'heure. C'est clé, et on le voit d'ailleurs, si je reprends le fait qu'on recrute beaucoup, beaucoup de jeunes, et en fait, quand ils s'intéressent, et ils s'intéressent de façon assez décomplexée, et tant mieux, aux pratiques des entreprises, pour savoir concrètement ce qu'on peut mettre en place sur tout un tas de sujets, et quand on nous pose des questions, notamment sur ce qui se cache derrière Shine et notre programme pour l'inclusion des LGBT+ au travail, c'est tout autant des alliés que des candidats LGBT+. Et on le voit ensuite aussi quand ils arrivent, quand ils veulent participer, collaborer au programme, à des animations, ben en fait, on a tous les publics. Et c'est pareil sur d'autres sujets, c'est pareil sur l'équité femmes-hommes, c'est pareil sur la place du handicap, de la maladie au travail. Enfin, voilà, il y a des concernés, mais au-delà, une génération, mais je crois au-delà de la jeune génération, qui se sent concernée, qui pose des questions. Et donc, voilà, ça aussi, c'est un élément qui peut, s'il y en a parmi vous qui hésitent encore, mais dites-le que c'est. Il y a un effet ricochet qui est positif.
Et pour rebondir, Emmanuel, sur ce que vous étiez en train de dire à l'instant, du coup, voilà, on aura des dirigeants, des RRH, des DRH avec nous aujourd'hui. On se demandait de manière concrète, maintenant qu'on a le constat, qu'on espère tous et toutes convaincus de l'importance de se saisir de ces sujets en entreprise, de manière concrète, et puis la question elle est adressée à tous les deux, parce qu'on a différentes typologies d'entreprises au MEDEF, plus grandes, plus petites, avec des secteurs d'activité très différents. Comment on fait pour entamer une bonne démarche d'inclusion des personnes LGBT, de manière concrète, par où on commence, qu'est-ce qu'on développe, et puis aussi, à quels enjeux on fait face quand on lance des démarches d'inclusion des personnes LGBT? Est-ce que vous avez, et puis aussi Catherine, par rapport à ton expérience et tes retours des signataires de la charte, des entreprises avec qui tu travailles, est-ce que tu as remarqué des comportements d'opposition? Comment on y fait face? Comment on arrive à convaincre? De manière plutôt concrète, que les personnes qui nous écoutent puissent avoir des clés un peu au-delà, bien sûr, de s'engager avec l'autre cercle qu'on recommande fortement.
Alors, mais je serais tentée de dire quasiment la même chose que pour d'autres critères soumis à discrimination. Un, d'abord, il faut citer. C'est vrai que nous concernant, comme souvent les personnes ne sont pas visibles, il faut citer les mots d'orientation sexuelle, d'identité de genre. Il faut, même si le mot LGBT est un mot un peu repoussoir en ce moment pour certaines personnes, il faut effectivement citer les mots. Ensuite, il faut avoir une parole très ferme de la direction. Voilà. Moi, en tant que dirigeant, patron de PME, gérant ou directeur de la filiale d'un grand groupe et autres, en réunion effectivement de comité de direction, dans l'ensemble de direction, alors voilà, on est proche du 17 mai, la journée mondiale de lutte contre l'LGBT-phobie, ou au mois de juin, le mois des Prides. De la même façon, vous pourriez prendre la parole le 8 mars sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, ou le mois de novembre pendant la semaine du handicap, pendant la semaine de la série. On a, je fais un peu de pub, hein, Inès, c'est
Merci,
bien,
je
mais bon.
prie.
Après, un plaisir. C'est effectivement de rappeler un certain nombre de fondamentaux sur ces critères-là. Ensuite, c'est d'abord faire un audit RH, demander à sa responsable RH, est-ce qu'on est clair sur le sujet? Alors, quand on dit clair sur le sujet, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que si on a une collaboratrice qui a un projet de PMA, est-ce qu'on a une procédure qui est discrète pour que la personne puisse, ou qu'il y ait assez d'informations dans l'intranet ou dans le tableau d'affichage qui est effectivement obligatoire, est-ce qu'il y a assez d'informations pour qu'une personne puisse renseigner sans forcément faire son coming out? Parce que ce serait une femme effectivement hétéro, elle va poser les questions, ben voilà, j'aimerais peut-être un bébé, bon, ou alors, on va faire une PMA, puisque maintenant c'est autorisé, elle peut en parler, bon, ben, comment ça se passe, voilà, par rapport à mon travail et tout, les questions que se pose tout salarié. Si je suis une femme lesbienne et que je parlais de la PMA, si je dois aller chercher poser les questions, je fais déjà parce que je donne des éléments un peu constitutifs, je me rends davantage visible. Donc, voilà, est-ce qu'au niveau des process RH, c'est clair. Ensuite, les relations avec les représentants du personnel, hein, les délégués du personnel, et dans le cadre du CSE. Il faut effectivement informer, écoutez, voilà, dans le cadre de notre travail, nos processus pour améliorer nos pratiques inclusives pour nos collaborateurs, collaboratrices, dans le cadre d'une démarche un peu vertueuse et recruter le mieux possible et le plus largement possible, on a effectivement des sourcils davantage diversifiés. La question effectivement des personnes LGBT+, pour lesquelles on ne demande rien de particulier, si ce n'est pour une personne qui fait sa transition, d'accompagner cette transition dans l'information de son collectif de travail et de voir avec cette personne si il y a besoin de modifier son job, planning ou métier pendant cette période de transition ou pas. Voilà des choses qui sont relativement simples, mais mis à part ce plan-là, il n'y a rien d'autre. En plus, il n'y a aucune obligation ni financière ni légale. Donc, déléguer du personnel, lui dire, est-ce que vous êtes au courant de ce sujet-là? Si jamais, effectivement, nous avons quelqu'un dans l'équipe qui a un problème en interne ou en externe avec un client ou un fournisseur, est-ce que cette personne oserait venir vous voir? Quelle est votre position sur le sujet? Je tiens à vous dire qu'en matière de diversité et sur cette thématique-là, ce n'est pas toujours les DP qui sont les représentants de personnel, ils sont toujours à la manœuvre. Les confédérations syndicales, j'ai été à une intervention ce matin au CSE, effectivement, d'un grand syndicat, il n'y a pas d'ambiguïté, le sujet est clair. Maintenant, sur le terrain, c'est à géométrie variable. Et ben voilà, la démarche, elle est beaucoup plus, en tout cas, plus volontariste du côté des RH que du côté, effectivement, des représentants du personnel. Donc, vraiment, discuter, alerter sur le fait que, voilà, maintenant, on met une politique en place. On tient effectivement à ce qu'il n'y ait aucun comportement discriminant et que s'il y a une situation effectivement de LGBT-phobie, vous devez pouvoir en être le réceptionnaire et éventuellement en être le soutien en tant que représentant du personnel et évidemment faire le lien avec la personne responsable des ressources humaines. S'il n'y a pas, si vous n'avez pas de DPI parce que vous êtes moins de 50 salariés, de toute façon c'est une relation un peu directe et là c'est le discours de toute manière du dirigeant qu'on peut faire à un moment donné. Je sais, ça c'était avant la pandémie, je ne sais pas si du coup ça a été repris de la même manière, mais le Noël pour les enfants du personnel, avec les cadeaux, hein, un grand classique, voilà, c'est l'occasion de dire, bon évidemment, alors ou le repas de fin d'année qu'on fait avec le personnel et leurs conjoints, ça arrive aussi, un genre de choses qui. Quand on dit que la vie privée est beaucoup plus présente dans la vie professionnelle qu'on ne veut l'affirmer, ça c'est une réalité, mais de dire évidemment, en tant que dirigeant, alors bien évidemment, les collaborateurs-collaboratrices, quelle que soit leur situation d'homoparentalité ou pas, qu'ils soient avec un garçon ou une fille, mari, femme, voilà, on prend les mots qu'on veut en fonction de sa propre culture et de la culture de l'entreprise, mais on dit très clairement, on fait très clairement comprendre aux personnes qui sont avec quelqu'un du même sexe qu'elles peuvent venir effectivement à ce fameux déjeuner de fin d'année ou le repas ou les cadeaux pour les enfants du personnel et autres. Et puis bien sûr, la question de l'audit, donc l'accompagnement des personnes concernées. Et puis, voilà, je pense que où vous créez vraiment les conditions de façon visible de dire on n'accepte aucun comportement discriminant et on touche toutes les cartes de population et on cite nommément effectivement ces critères, ou on cite le segment des personnes lesbiennes, gays, bi et transgenres, donc ça dit aux personnes concernées que, ok, elles n'ont pas à se cacher, mais ça a un deuxième impact, c'est que ça dit aussi aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec le sujet. Parce que forcément, il y en aura chez vous. Il n'y a aucune raison que dans votre entreprise, vous soyez à l'abri de la réalité de la société. Vous avez forcément des gens chez vous qui sont racistes, antisémites, sexistes, LGBT-phobes. La seule différence qui fait qu'ils ne peuvent pas exercer, en tout cas dans le cas du travail, leur conviction en la matière, c'est qu'il y a des règles et des lois qui savent effectivement qu'ils ne pourront pas y déroger. Donc c'est une certaine façon la direction. C'est pour ça que notre charte, on l'appelait charte d'engagement. On ne pousse personne à signer, mais moi je m'engage. Mais je m'engage avec mon codir ou avec mon COMEX, ou avec en tout cas les quelques responsables d'équipe autour de moi, à ce que on évite, enfin, cette prévention au maximum de comportement, et puis que s'il y en a un, on le traite. Et tant pis si celui qui a été discriminant, c'est le super chef des ventes ou le super vendeur qui performe et qui dépasse tous les objectifs, le meilleur effectivement de toute l'équipe, ben, à un moment donné, il faut taper du poing sur la table, et taper sur les doigts, il faut le faire, il faut savoir le faire dans l'intérêt effectivement du collectif de travail, et bien sûr de la personne.
Merci Catherine. Emmanuel, je voulais rebondir pour que vous nous expliquiez un peu comment, de manière, voilà, Catherine vient de nous illustrer pas à pas exactement comment mener une stratégie d'inclusion des personnes LGBT+. Et merci Catherine pour ta clarté comme d'habitude. Et Emmanuel, voilà, si vous pouviez illustrer vous chez PwC comment ça s'est passé, à quoi ça ressemble aujourd'hui votre engagement sur ces sujets en tant que signataire et auprès de vos collaborateurs et collaboratrices.
Comme vous l'avez souligné, on a commencé par se faire accompagner. Et donc, voilà. Qui d'autre ou qui de mieux que l'autre cercle pour ça? Donc, en effet, c'était en 2018, c'est le moment où on a choisi de formaliser l'engagement. Et avec l'engagement de la direction, je pense que c'est un point fondamental. Oui, il y a des règles, il y a des lois, mais à un moment, c'est bien en effet la direction de dire on s'engage sur les sujets. Et l'engagement de la direction, il est fondamental, il est clé. Il faut que ce soit dit, il faut que ce soit nommé, et l'inclusion des LGBT+ fait partie de nos priorités inclusion et diversité, au même titre que l'égalité femmes-hommes ou le handicap au travail. Voilà, c'est annoncé. Et on a commencé donc en 2018 par la signature de la charte d'engagement de l'autre cercle, en même temps qu'on a créé notre programme interne d'inclusion des LGBT+ qui s'appelle Shine. Donc on a vraiment démarré en 2018 et qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour essayer de vraiment montrer la démarche? Bon, on a essayé de faire des quick wins et puis d'apprendre en marchant. Donc on a lancé des conférences sur les grands sujets qui sont malheureusement un peu toujours les mêmes, la transidentité, femmes et lesbiennes en entreprise par exemple. Dans cet enjeu de visibilité et d'allier, il y a un truc qui a bien fonctionné, qui est pourtant tout simple, c'est les tours de cou. Voilà, on a tous en entreprise des tours de cou, des badges. Et en fait, on a fait des tours de cou aux couleurs rainbow. Et ce n'est pas les tours de cou qu'on a distribués à tout le monde. On l'a distribué en fait en fonction des lancements, en fonction de nos ambassadeurs, des relais, des RH dans les entités. Et il y a eu un peu un effet de rareté et un effet d'allier, de dire « Ah mais tu l'as eu où? Ah non mais c'est génial, c'est ce qu'on est en train de lancer, mais je le veux. » Et ça a permis comme ça d'afficher aussi un soutien et puis de... Un buzz, je ne sais pas si c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, de parler d'initiative, de faire une initiative à son lancement. Et puis, on a eu des retours intéressants par rapport à ça. Voilà, encore une fois, on parle juste d'un tour de cou. Mais c'est une candidate, donc devenue collaboratrice, qui nous a rejoint. Et l'associé avec qui elle avait eu un des entretiens avait ce fameux tour de cou Rainbow sur elle. Et puis, une fois qu'elle nous a rejoint, elle a dit, mais en fait, ça fait partie des critères, des éléments qui m'ont amené à sérieusement, faire pencher mon choix pour PwC. Évidemment, elle n'est pas venue juste parce qu'il y avait un tour de cou Rainbow, hein. Elle s'est retrouvée dans plein d'autres choses. Mais elle s'est dit, j'ai pas besoin d'en parler, je sais que je serai dans un environnement safe par rapport à ça et c'était un point important pour moi. Donc il y a des choses simples comme ça. Vous avez parlé des droits parentaux, c'est un élément clé, ça, on l'a adressé en 2020. Donc on a dans nos programmes d'accompagnement des collaborateurs, toujours dans cette idée de les aider dans la performance durable. On les aide sur la santé mentale, la santé physique, on les aide aussi dans les bons et les mauvais moments de la vie, et ça passe par les sujets de parentalité, les sujets d'aidants. Et donc en 2020, on a revu le programme chez nous de parentalité et d'aidants pour qu'il soit bien inclusif de toutes les situations familiales. Et donc on a mis en place des droits équivalents et donc offerts aux LGBT+ pour la PMA. On a ouvert aussi un congé GPA basé sur le congé d'adoption à l'international, tout simplement parce qu'on a un collaborateur qui nous a posé la question, qui nous a dit, je suis dans cette situation, le cabinet s'engage sur l'inclusion des LGBT+ et l'équité, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Qu'est-ce qu'il est envisageable de faire? Et donc, on a regardé ce qu'on pouvait faire par rapport à ce sujet qui est quand même assez touchy de la GPA. C'est pour ça qu'on a décidé d'appliquer l'équivalent du congé d'adoption à l'international en termes d'absence autorisée rémunérée avant et après l'arrivée de l'enfant. Donc ça, c'était un élément clé aussi, parce que c'est une traduction très concrète. Oui, on a un environnement inclusif, et donc y compris sur toutes les familles et toutes les formes de familles. Voilà, je sais pas, c'est quelques exemples que je peux vous donner.
C'est super concret. Merci.
Il y a un autre élément, peut-être, c'est les after-work. Ça peut paraître léger de se dire, et on peut aller sur entretenir un biais de dire, mais c'est de la sphère privée, c'est pas un truc professionnel. Mais en fait, les after-work, en quoi ils sont importants? Parce que c'est un lieu, ça peut être aussi un lieu safe, un lieu sûr pour échanger, pour aller voir de quoi on parle, pour aller voir qui sont les collaborateurs et collaboratrices qui sont dans le programme d'inclusion des LGBT+, éventuellement pour préparer une visibilité, un coming out au travail. Et ces after-work, on a choisi d'en faire à l'extérieur, en dehors de nos locaux, justement pour favoriser ce fait de si je veux y aller, je sais que voilà, je peux y aller librement sans être vu, on va dire. Alors, on a choisi aussi d'en faire chez nous. Parce que là, c'est une façon au contraire d'embarquer des collaborateurs qui seraient peut-être plus difficilement allés sur un lieu externe, parce que ces afterworks qui sont offerts à tous. Et quand on fait la communication en interne, on dit bien que c'est ouvert à tout le monde. Et le fait de l'avoir chez nous dans nos locaux, ça permet d'avoir des collaborateurs qui viennent aussi pour se rendre compte de ce qui se passe. Et puis on le fait aussi avec nos clients. On a commencé l'année dernière, on a refait ça cette année pendant le mois des fiertés. Et c'est l'occasion là aussi d'échanger avec d'autres programmes, d'autres clients sur leurs enjeux, leurs sujets et l'écosystème. La notion d'écosystème, je pense qu'elle est aussi importante parce qu'on a tous. Enfin, voilà, c'est pas un sujet qui est seulement celui de l'entreprise ou de l'organisation, qui est aussi celui de la société civile. Et donc voilà, c'est intéressant aussi de nouer des liens avec son écosystème.
Oui, c'est vrai que c'est un sujet, tous ces sujets d'inclusion, de diversité sont des sujets importants et peut-être parfois lourds à mettre en place. Et c'est vrai que des actions simples et plus légères comme des after-work, finalement, ça permet de baisser des barrières et oui, faire les choses simplement, parfois, ça peut être plus efficace que de mettre en place une vraie stratégie. C'est complémentaire, exactement. Ouais. L'un
Ça fait
avec
vivre
l'autre.
tout
Ouais.
seul.
Je pense qu'il faut être assez, comment dire, décomplexé par rapport à l'approche et de tenter des choses en fait. De tenter, d'essayer. Et puis ce qui marche chez un ne marche pas forcément chez l'autre. Mais c'est bien d'échanger, d'essayer. Et puis oui, on a des choses un petit peu plus légères comme les after-work. Et à côté de ça, par rapport au fait aussi d'annoncer la couleur sur il y a des choses qui n'ont pas leur place dans l'entreprise, et notamment dans une entreprise qui a signé la charte et qui se veut irréprochable, en tout cas qui a des engagements sur le sujet. On a une alerte éthique, on a un référent sur le sujet d'inclusion des LGBT+ au travail, tout comme on a des référents sur l'équité femmes-hommes, sur le handicap, etc. On a tout un écosystème pour que nos collaborateurs se sentent autorisés à parler de leurs difficultés ou à parler de discrimination ou s'ils sont témoins ou victimes. Mais voilà, c'est toutes ces briques qu'on a mises en place depuis 2018.
Je rebondis, Mélanie, sur ce que vous disiez sur le fait d'associer vos clients à ces moments d'échange sur le sujet. On a beaucoup parlé là, stratégie interne, stratégie RH, stratégie contre les discriminations. Mais on n'a pas forcément parlé de l'action externe, de se faire aussi porte-parole auprès de ses fournisseurs, auprès de ses clients, auprès de ses parties prenantes externes, et puis aussi parfois de faire des partenariats extérieurs, puisque la charte d'engagement, elle aide à mettre en place une stratégie, et cette stratégie, elle peut avoir plusieurs volets, un volet interne, un volet externe. J'aimerais bien avoir ton ressenti, Catherine, sur l'importance d'inclure les parties prenantes de l'entreprise et de sensibiliser, et puis même de les engager sur le sujet. Et puis après, Emmanuel aussi, si vous pouviez nous expliquer vos actions externes. Je sais que notamment, pour mettre du suspense, mais ça a à voir avec les JO, les JOP Paris 2024. Voilà.
Alors, évidemment, il y a tout un intérêt pour la communication externe, d'un image de cours, vis-à-vis effectivement des clients, s'il y en a. Donc aussi, les partenariats avec l'association, alors, on parle de l'autre cercle, mais ça peut être Refuge, ça peut être la homophobie, ça peut être, alors, c'est pas une association, mais avec les TU Connect, voilà, des organisations qui sont reconnues, qui agissent vraiment dans une logique d'inclusion et apportent effectivement une expertise. Nous, on a une vraie forte expertise depuis longtemps maintenant. Ça fait 26 ans qu'on existe, mais on a développé beaucoup d'outils. On a profité des compétences professionnelles de nos bénévoles qui agissent dans la vraie vie et qui ont apporté ces compétences dans la construction de nos outils non livrables et d'avoir aussi. C'est ça que c'est intéressant pour nous. Les geeks sont sortis, on parlait tout à l'heure de lesbiennes visibles qui sont beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup moins que les gays. Donc le programme Voilà justement pour l'émergence de femmes lesbiennes, le guide prochain qui va sortir, qui est une remise à niveau et avec l'ajout de la non-binarité, un guide sur la question de la transidentité. Voilà, le prochain qui sera l'été prochain, à l'été 2025, pardon, sur guide pour les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. À chaque fois, tout ce que l'on fait, on le co-construit avec des employeurs publics et privés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le travail de constat, l'analyse, on a l'expertise, on le cherche, mais les freins, les difficultés, comment contourner ça, etc., et les recommandations, les bonnes pratiques, on les co-construit toujours avec des employeurs publics et privés de tailles différentes. Des PME, des start-up, des représentants de ministères et bien sûr des organisations de grands groupes qui apportent aussi beaucoup de matière de manière à pouvoir réfuter ce qui ne serait pas réalisable dans l'instant présent, hein, parce qu'après, on peut toujours imaginer un monde meilleur, comme un programme européen, on disait, voilà, en 2030, projetez-vous en 2030, on aimerait bien se projeter en 2030, enfin, bien, je projette déjà fin juillet 2024, mais dans l'instant présent, dans les contraintes légales, dans la sociologie, la composition de la société, il faut qu'on fasse avec. Et à l'autre sens, on a cette expertise-là, justement, de voir dans la mesure du possible, par rapport à la culture aussi de l'entreprise, de faire des choses. Mais c'est évidemment important pour les organisations qui candidatent au label Alliance, hein, diversité, égalité. Ce sujet, il est parfaitement porté par les membres des collèges. Et puis, bien sûr, par les auditeurs, auditrices de la FNOR qui font ce travail préparatoire. Et puis, à un moment donné, d'être contributeur, alors par du sponsoring, par du mécénat de moyens, du mécénat de compétences. Les fonds ne sont pas extensibles, hein, l'État n'a pas assez de moyens pour aider les associations qui travaillent un peu sur les droits humains, et en tout cas sur ce domaine-là. Et puis, vraiment avant tout, je crois que c'est le point 4 de notre charte, ben voilà, vous êtes nos ambassadeurs, ambassadrices, vous les signataires de la charte, et plus vous en parlez effectivement dans vos réseaux, informez effectivement de ce que vous faites. Nous, on adore quand on a un dirigeant de haut niveau qui, en tant qu'allié, explique auprès de ses pairs pourquoi effectivement c'est important de signer la charte, pourquoi c'est important de préserver des personnes. Je me souviens, c'était avant la pandémie, j'ai plus l'année, je pense que c'est 2019, l'initiative effectivement de trois signataires, on dit, écoutez, voilà, on voudrait marquer le coup pour le 17 mai. Et on a sorti en 15 jours un texte qui était vraiment, nous, employeurs, l'ont rappelé à nos collaborateurs, etc., texte court, il a été signé en 15 jours par 73 dirigeants et dirigeantes. Je vais vous dire, direction corporelle, qui sont toujours un petit peu frileuses pour les prises de parole d'un dirigeant, d'une dirigeante, surtout sur un sujet comme celui-ci, le sujet ne s'est pas posé parce qu'il y a aussi la reconnaissance, l'autre cercle est très apolitique dans son mode de travail, et puis plutôt pragmatique. Ben voilà, pour nous, la bonne réponse, c'est que quand on travaille avec une association qui a une vraie reconnaissance d'avoir parfois un peu prêché dans le désert, d'avoir eu un petit peu de mal au début à convaincre au-delà d'un cercle de quelques entreprises engagées, avec l'aide de l'État aussi, hein, qui a joué son rôle, parfois en subvention, ou en tout cas à écouter nos propositions, ben on a réussi effectivement à faire évoluer la société. Donc, il y a une porosité naturelle, et c'est là qu'on est dans l'ESS, hein, l'économie sociale et solidaire aussi. Tout ce qui se fait aujourd'hui en matière d'insertion, en matière de ramener à l'emploi des personnes qui en sont trop durablement sorties, et la Syrie en est un bon exemple de pas mal de webinaires qui vous ont effectivement d'assister, ben ça s'est fait parce qu'à un moment donné, les associations ont apporté leur expertise, leurs compétences, des témoignages, des gens qui ont parlé, des gens de la vraie vie, qu'on dise ce qu'ils ressentaient, et qui à un moment donné ont touché les gens au cœur aussi en disant bon sang. Ok, je veux bien faire, mais finalement ça marche pas, donc, ou ça marche pas. Donc c'est là qu'il faut creuser, faire son audit et le faire effectivement avec des acteurs et actrices de référence.
Merci Catherine. Emmanuel, est-ce que vous voulez clôturer ce webinaire avec du coup vos actions externes et comment vous vous engagez sur ces sujets au-delà d'une stratégie envers vos collaborateurs?
Oui, mais c'est vrai j'ai parlé des clients, donc on essaie d'engager, mais c'est vrai que dans toutes nos démarches d'appels d'offres et de relations de prospection, évidemment que on valorise tout ce qu'on peut faire pour attirer les talents, retenir les talents et assurer la performance. On est sur des enjeux de. Ça, quand on vient nous voir, c'est pour des missions qui sont exigeantes, avec des problématiques complexes à résoudre. Donc évidemment, les clients sont rassurés. Si on arrive à leur montrer qu'on sait recruter, fidéliser et aider nos collaborateurs à être eux-mêmes pour être performants. Donc c'est des éléments justement qu'on met en avant. sur, je parlais du recrutement, donc on a en effet beaucoup de relations avec l'enseignement supérieur, avec des associations étudiantes. On les invite une fois par an pour un événement aux couleurs de l'inclusion et des diversités, avec une grosse partie sur l'inclusion des LGBT+ au travail, pour leur montrer que, y a un relais, c'est-à-dire que ceux qui choisissent de s'engager sur ces sujets quand ils sont en université ou en école, ben, en fait, ils peuvent ensuite continuer dans l'entreprise à s'engager et à trouver aussi des organisations, des dirigeants qui sont engagés sur le sujet. Et puis, il y a quelque chose qui arrive très bientôt, c'est les Jeux Olympiques de Paris 2024, dont on a la chance d'être des heureux partenaires. Autour de ces Jeux, vous avez sûrement entendu parler de l'héritage, hein, des enjeux, c'est ce qui va rester après les Jeux de Paris 2024. On parle beaucoup évidemment de l'héritage sportif autour de la santé, c'est-à-dire que mettre les Français au sport, on est de plus en plus sédentaires, les jeunes sont de plus en plus sédentaires et c'est des vrais risques pour la santé. Et évidemment que dans nos populations, nous, d'employés tertiaires, on a ces enjeux-là aussi de mettre nos collaborateurs au sport. Mais quand on parle sport et LGBT+, il y a un autre sujet qui vient en tête, c'est l'invisibilité des LGBT+. Récemment, il y a Antoine Dupont, hein, le meilleur joueur de rugby du monde, alors j'en parle avec d'autant plus de fierté que je suis d'origine toulousaine, mais... qui s'est exprimé, qui fait la une du magazine Têtu et qui dit aujourd'hui il y a un joueur de rugby professionnel qui est out. Ça m'étonnerait qu'il y ait un seul joueur ou joueuse LGBT+. Donc il faut qu'on fasse un pas vers un monde du sport qui soit plus inclusif, plus ouvert pour permettre justement à des joueurs d'être out et de donner le meilleur d'eux-mêmes, tout simplement. Et puis au-delà de l'invisibilité, il y a aussi le sujet de l'homophobie dans le sport, hein, tout simplement. Donc, comment faire pour que dans l'héritage, il y ait aussi un mieux sur l'inclusion des LGBT+ dans le monde du sport? Donc, il y a une Pride House qui s'est montée, dont nous sommes partenaires. C'est quelque chose qui a déjà existé sur d'autres initiatives, sur d'autres événements sportifs, hein, Jeux Olympiques ou autres. L'idée, c'est d'avoir un lieu bienveillant, un lieu safe, pendant lequel on peut vivre les jeux, mais on peut aussi avoir des conversations pour faire avancer l'inclusion des LGBT+ dans le sport. Il va y avoir des ateliers autour de plusieurs sujets. Chose intéressante, on retrouve les sujets de la place des femmes et des personnes lesbiennes dans le sport. Il n'y a pas seulement le sujet de l'invisibilité en entreprise, et puis pareil, de l'accueil des personnes trans et non-genrées dans le sport. Encore une fois, on voit que c'est des thématiques qui sont thématiques transverses LGBT+ à l'entreprise et puis à la société en général. Voilà, donc on est partenaire de cette Pride House, on est fier de ça et on va d'ailleurs, on a des collaborateurs qui vont participer à l'organisation de ces ateliers. L'objectif, c'est d'avoir des restitutions concrètes pour permettre d'œuvrer à une meilleure inclusion sur le sujet.
Génial. Ah, merci Emmanuel, merci Catherine. On est presque dans les temps, on a 3 petites minutes de retard. On est ravis de vous avoir accueilli aujourd'hui. Vous avez partagé beaucoup de choses intéressantes, beaucoup d'outils. Merci aussi aux participants et participantes d'avoir été avec nous. Comme on disait avec Gauthier, vous aurez des slides avec les liens d'information et puis vous aurez aussi le podcast en replay de ce webinaire. Et encore merci à Emmanuel et Catherine pour leur savoir et leurs conseils qu'on espère qu'ils seront vraiment utiles. Et merci à Gauthier pour
Bah, bon, merci.
l'organisation.
Merci à tous et
Merci
à
beaucoup et
toutes.
bonne journée.
Merci.
Merci. Au revoir.
Vous avez des questions liées à cet enregistrement? Rendez-vous sur le site l'académiemedef.fr.